Roland Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été administrateur colonial dans le Mali et le Sénégal d'avant l'indépendance et vous dites qu'à l'époque, il y avait à Dakar, à Bamako aussi peut-être, un apartheid qui ne disait pas son nom.
C'est un apartheid qui vient de loin parce qu'effectivement, la société coloniale reposait sur une idéologie de la différence surplombante. Et effectivement, la libération des dominés supposait un véritable repositionnement de ceux qui avaient été les dominants d'autrefois.
Vous parlez de vos compatriotes français de l'époque.
D'une bonne partie des compatriotes français de l'époque, pour ne pas dire d'une très grande partie.
Et vous avez des exemples concrets de ce qui ressemblait à un apartheid?
Dans la vie sociale, les Européens et les Blancs s'arrogeaient une prime de dominance. Parce que d'abord, les Africains de cette époque-là, qu'ils appelaient des indigènes, avec une certaine pointe de mépris, ces Africains n'avaient pas les mêmes droits. Et sur la base d'un malentendu fondamental, pour les tenants de cette idéologie-là, le noir pouvait se libérer s'il devenait non pas seulement légal, mais le semblable au blanc. Et beaucoup ne comprenaient pas qu'il puisse y avoir dans l'histoire, dans le cheminement historique des Africains, des valeurs comparables à celles des autres nations et qui devraient permettre des échanges, ce que Senghor a par la suite appelé le métissage. Senghor disait le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors que l'idéologie coloniale, le donner et le recevoir étaient à sens unique.
Nord-Sud.
Nord-Sud.
Roland Collin, vous étiez à l'époque un homme de gauche au sein de l'administration coloniale française. Vous appreniez les langues africaines comme le Wolof. Et cela ne devait pas être très bien vu, non, par vos collègues de l'administration française?
C'est-à-dire les collègues de l'administration française c'était pour la plupart d'entre eux installé dans justement ce statut de supériorité là, qui faisait que faire un pas dans la direction des autres, reconnaître leur parler, leur manière de vivre en termes d'égalité, c'était effectivement tout à fait rare. Pour beaucoup d'Européens, les langues africaines n'étaient pas de véritables langages civilisés.
En août 1958, à l'initiative de De Gaulle, se prépare le référendum du mois suivant, partout en Afrique francophone, hein, pour ou contre le statut d'État membre dans la communauté française.
Oui.
Et vous dites que chez Senghor et Mamadou Dia, il y a une grande hésitation. Oui ou non, ils hésitent. Hein.
C'est-à-dire, une grande partie des intellectuels africains pensaient que la liberté ne pouvait pas se refuser. Or, De Gaulle, dans un premier temps, disait, à l'occasion de ce référendum, si vous voulez l'indépendance, prenez-la.
C'est ce qu'il dit aux porteurs de pancartes à Dakar en août 58.
Et à ce moment-là, vous quitterez l'orbite français. Et pour beaucoup de ces intellectuels de l'époque, il était impensable de refuser la liberté. Or, on proposait la liberté comme une liberté de rupture. Donc, dans un premier temps, un certain nombre de ces intellectuels africains, c'était le cas de Mamadou Dia, qui était le chef du gouvernement sénégalais, et d'ailleurs du parti dominant au Sénégal à l'époque, avait pris la position de dire « on ne peut pas refuser l'indépendance ». Senghor était plus mesuré. Senghor pensait qu'il fallait du temps, qu'il fallait gagner du temps. Mais, disons, Mamadou Dia avait vraiment pris, comme la majorité du parti, les positions de voter non au référendum avec d'autres pays.
Comme la future Guinée de Sékou Touré.
Oui, et puis il y avait aussi à l'époque le Niger qui avait pris la même position avec Bakary Djibo. Il y a eu un moment tout à fait tragique dans les relations entre Dia et Senghor, qui étaient vraiment des relations fraternelles, des relations profondes jusque-là. Senghor avoue à Mamadou Dia qu'il a pris l'engagement vis-à-vis de son camarade Pompidou, qui avait été sur les bancs de Louis le Grand avec lui, de faire voter oui au référendum. Donc un contre-pied de ce qui se dessinait dans la classe politique sénégalaise. Mamadou Dia est effondré, il discute avec Senghor, et Senghor fait des pas en avant, dit à Mamadou Dia, c'est Mamadou Dia lui-même qui me raconte cette histoire, dit à Mamadou Dia, bon, disons, l'indépendance, on peut la prendre, mais dans 20 ans. Mamadou Dia estime cette proposition comme totalement hors de question. Et ce marchandage aboutit à ce que, finalement, Senghor accepte qu'on fixe le délai à 4 ans. Alors à ce moment-là, effectivement, Mamadou Dia, en économiste aussi qu'il était, le délai de 4 ans lui paraît jouable. Et du coup, il se fait l'avocat auprès de la formation politique sénégalaise pour dire à ses camarades de parti, nous revendiquons l'indépendance dans 4 ans, mais nous allons l'annoncer tout de suite. Et ces 4 années vont être totalement engagées dans la reconversion de notre économie et de notre société pour que nous puissions être véritablement indépendants.
Et c'est comme ça que le Sénégal a voté oui au référendum de De Gaulle, alors que la Guinée de Sékou Touré a voté non. Est-ce que Sékou Touré avait de l'influence sur Senghor et Mamadou Dia ou pas?
Il avait très peu d'influence. Mais Senghor et Mamadou Dia reconnaissaient que la Guinée était un partenaire important. Et quelques jours avant le référendum, Mamadou Dia a été dépêché spécialement auprès de Sékou Touré. Ils ont longuement discuté et Sékou Touré est resté sur ses positions. Disant à Mamadou Dia, lorsque je serai indépendant, la France viendra me supplier de bâtir des relations avec elle. Mamadou Dia me racontait ça à son retour de Conakry. J'étais sur le tarmac de l'aéroport pour l'accueillir. Et Mamadou Dia exprimait une profonde tristesse, disant, si la Guinée se sépare de nous, notre projet d'union entre territoires pour qu'on puisse sortir en force sera beaucoup moins facile, beaucoup moins aisé.
Et est-ce que de Gaulle a eu tort de fermer la porte à toute coopération avec la Guinée qui avait dit non à la France ?
Effectivement, le projet de Gaulle était d'une certaine manière de faire de Sékou Touré une sorte de contre-exemple.
C'est une forme de punition.
Une sorte de punition. Et puis, il faut dire aussi que le caractère des personnages était vraiment violent entre De Gaulle et Sékou Touré.
Les deux hommes ne s'aimaient pas.
Les deux hommes ne s'aimaient pas. Je rapporte cette anecdote que m'a dite Mgr Maury, qui était le nonce apostolique de la région, et qui avait donc la Guinée dans son obédience. Après le référendum, lorsque la Guinée est devenue indépendante, Mgr Maury me rapportait une conversation qu'il avait eue à Conakry avec Sékou Touré. Et Sékou Touré lui avait dit, Monseigneur, quand vous irez en France, vous devriez voir le général de Gaulle et dire que nous devrions retrouver un certain dialogue. Mgr Maury en a pris acte, il est allé voir le général de Gaulle et de Gaulle lui a dit, je rapporte ces termes, jamais Monseigneur, parce que Sékou Touré est un orgueilleux. Et les choses en sont restées là.
Peut-être de Gaulle était-il aussi un orgueilleux.
Alors ça, c'est une chose sur laquelle on peut réfléchir effectivement. Sékou Touré ne voulait pas voter oui. Il aspirait à une sorte de position de leadership chez les chefs d'État africains qui ne lui étaient pas reconnus au sein du RDA.
Bon, il avait le Rassemblement démocratique africain de Fouette.
Il avait pris quelques distances avec Oufouette, qui était quand même la personnalité surplombante. Et donc, il espérait que les partenaires qui n'avaient pas choisi la liberté en même temps que lui seraient punis de ce choix à contre-temps de l'histoire.
Il espérait prendre le leadership de l'Afrique de l'Ouest.
Or, en fait, la Guinée s'est engagée dans une situation catastrophique qui a tourné à la dictature. Mais je pense que c'est un drame pour l'Afrique occidentale entière et que la Guinée n'ait pas pu faire cause commune avec les autres.
Autre projet d'union avorté entre le Sénégal et le Mali, ça a marché quelques mois et puis ça a explosé en août 60, cette fameuse fédération du Mali. À qui la faute ? À Senghor ou à Modibo Keïta ?
Il était clair que Senghor, Mamadou Dia et toute une série d'autres revendiquaient que cette progression vers la liberté se fasse en prenant comme partenaire le groupe de territoires, parce qu'il y avait une Afrique occidentale. Les Français n'ont pas du tout admis cela, mais aussi d'autres territoires africains, notamment la Côte d'Ivoire. Il y avait d'ailleurs des rivalités entre Senghor et Houphouët-Boigny depuis déjà d'assez longue date. Houphouët-Boigny, d'ailleurs, avait déclaré dans une formule qui avait fait mouche à l'époque, « Nous ne voulons pas être exploités par ces affamés du Sahel ». Donc il se mettait un peu en dehors de la solidarité et donc se posait la question de constituer une fédération. On avait choisi ce terme de fédération du Mali. Alors ça n'a pas marché d'abord parce que la fédération réduite à deux était une entreprise beaucoup plus difficile. Moi je comparais ça à une conjugalité à problème. D'autant plus que les deux partenaires avaient des histoires politiques totalement différentes. Et donc, très rapidement, la question s'est posée de savoir lequel des deux partenaires l'emporterait sur l'autre. Et Modibo Keïta s'est affiché progressivement comme beaucoup plus mordant, plus ambitieux dans cette voie-là. Et donc, les Sénégalais ont rechigné. Les Sénégalais ont découvert dans les relations de cette fédération-là que la pratique politique des gens de Bamako était tout à fait différente et même, à bien des égards, contraire aux droits de l'homme. Il y avait eu des morts d'hommes, d'opposants dans l'affaire. Et tout ça était passé sous silence. Et donc, à partir de là, il était vraiment très difficile de construire quelque chose qui serait ensuite ouvert aux autres, parce que c'était ça aussi le projet. Et donc, effectivement, alors le casus belli qui a provoqué la crise, ça a été quand il s'est agi d'élire un président de la fédération. Modibo Keïta se présentait, les Sénégalais et Mamadou Dia voulaient absolument que ce soit Senghor, et Mamadou Dia a défendu Senghor mordicus. Et donc, c'est sur ce casus belli que la fédération a explosé.
Roland Collin, dans la toute jeune République indépendante du Sénégal, vous êtes le directeur de cabinet du chef de gouvernement, Mamadou Dia. Vous le voyez tomber en décembre 62. Il est arrêté sur ordre de Senghor. Pourquoi le Sénégal est-il un des rares pays d'Afrique francophone à avoir échappé à un coup d'État militaire depuis l'indépendance ?
Je crois qu'il y avait chez les Sénégalais une conscience très forte de ses valeurs culturelles, de ce que représentait la société civile qui en était porteuse. Il y avait un contrepoids intérieur qui était très fort. Ça a été une sorte de garantie contre l'accession des militaires au pouvoir. Mais l'armée a joué quand même son rôle, parce que dans les moments durs de 1962, lorsqu'il y a eu la rupture entre Diaz et Senghor, on peut dire que Senghor s'est appuyé sur l'armée pour éliminer Mamadou Dia. C'est tout à fait évident.
Roland Collin, merci.